Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Professeur Bernard Sablonnière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin et biologiste, professeur émérite de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'Université de Lille et vous êtes chercheur à l'INSERM. Vous venez de faire paraître, vous avez fait paraître de nombreux livres passionnants sur le cerveau. Alors, le livre qui nous réunit aujourd'hui, c'est un livre qui paraît chez Odile Jacob et qui s'intitule « Biologie de la personnalité ». Est-ce que vous pourrez nous présenter ce livre ?
Oui, alors la meilleure façon de le présenter, c'est de considérer que finalement, on arrive maintenant, grâce aux découvertes, aux observations du fonctionnement des connexions cérébrales, à remettre ensemble le soma et le psyché. C'est-à-dire que finalement, la personnalité, bien sûr, révèle encore de nombreux mystères, mais elle a une base biologique réelle que je tente d'illustrer dans ce livre en montrant que tempérament et caractère sont deux facettes étonnamment liées qui vont construire la personnalité depuis la grossesse et puis ensuite profiter grâce aux nuances du caractère de modifications liées à notre éducation, à nos rencontres et à notre vécu personnel.
Est-ce que les termes personnalité, caractère, tempérament sont à peu près superposables ?
Alors en fait, la personnalité, c'est l'ensemble des caractéristiques, des qualités qui distinguent la façon dont les gens se comportent, réagissent et vivent leurs émotions. Et la personnalité a deux facettes différentes. Donc le tempérament d'une part et d'autre part le caractère. Alors le tempérament, c'est une base innée. C'est un peu, si vous voulez, par comparaison, la partie immergée de l'iceberg. Tandis que le caractère, c'est ce qu'on voit et ce qui est sensible à l'environnement extérieur, la partie émergée de l'iceberg. Donc le tempérament est une disposition innée, éminemment biologique, relativement stable dans le temps, tandis que le caractère correspond à l'évolution du tempérament, après la naissance bien sûr, au fur et à mesure de nos habitudes, de notre éducation, de nos relations sociales, culturelles, en fonction de nos apprentissages. Et ces habitudes comportementales ou réactionnelles sont modifiables en fonction du temps et avec l'environnement.
Professeur Bernard Sablonnière, donc ce livre, Biologie de la personnalité, la construction du soi, a pour vocation de nous éclairer sur l'histoire de nos différences. Il y a des centenaires, il y a des génies, il y a des criminels. Certains sont visionnaires, d'autres sont voyants. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de Léonard de Vinci, qui lui est un créateur, un visionnaire hors norme?
Oui, tout à fait. Je mets effectivement comme exemple dans ce trait d'ouverture qui caractérise éminemment les génies, que ce soit des génies créateurs ou des génies plus abstractifs, plus intellectuels. Et je prends l'exemple d'Albert Einstein. Donc Léonard de Vinci, bah oui, tout le monde le sait. Il a dès son plus jeune âge, il était très ouvert, donc il était extrêmement créatif, à la fois dans le dessin, dans la musique, dans la soif de connaissance. Et ça caractérise vraiment ce trait d'ouverture où finalement, les gens qui ont ces nuances de caractère sont très, très ouverts, très imaginatifs. Ils aiment l'aventure, ils aiment la créativité, ils sont très très attirés par les arts, très très variés d'ailleurs, c'était très très remarquable chez Léonard de Vinci. Et dans ce trait d'ouverture, je donne l'exemple également d'Albert Einstein, où là c'est plutôt l'intellectualité, la capacité d'abstraction qui est plus développée chez lui.
Et il y a le terme océan, alors O pour oui. ouverture, C pour conscience, E pour extraverti, A pour agréable et N pour névrosisme. Est-ce que vous pouvez revenir, déplier pour nous cette idée, d'ailleurs très, très, très visuelle, très, très belle, d'océan ?
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est un ensemble de chercheurs en psychologie, notamment d'origine américaine, qui ont démontré dès les années 60 qu'il y avait une foultitude de nuances extrêmement diverses, comme vous disiez au départ, qui font que l'on est tous différents dans notre façon d'exprimer notre comportement ou de réagir. Et ils ont essayé de trier, de ranger un petit peu pour mieux les caractériser et mieux les décrire, toutes ces nuances dans des tiroirs, dans des traits principaux, dont ils ont distingué 5 tiroirs principaux, 5 traits, d'où les acronymes O, C, E, A et N. Donc, il faut effectivement faire attention que c'est très disparate selon les individus et chacun d'entre nous peut posséder certaines nuances de chacun de ces 5 traits. Alors que d'autres auront un comportement qui correspondra à 90% au trait de l'ouverture ou au trait de la consciencieusité. Mais souvent, c'est un savant mélange. Et même s'il existe des tests qui permettent de mesurer l'importance, la particularité d'une personne pour ses différents traits, on s'aperçoit que finalement, quand on mesure le score, eh bien, on a des points, on possède des nuances dans chacun de ces 5 traits principaux. Et ça permet donc de mieux définir, de mieux étudier et de mieux analyser les caractéristiques de la personnalité d'une personne.
Alors, vous avez parlé du caractère de l'ouverture avec comme exemple Léonard de Vinci. Est-ce que vous pourrez nous définir un petit peu ce qu'est le névrosisme et pas le nervosisme ?
Alors, c'est un trait qui caractérise souvent les anglo-saxons parlaient de neuroticisme il y a quelques années, mais bon, en français actuellement et chez les psychiatres, on parle de névrosisme. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des individus névrosés. La névrosée est plutôt un trait quasiment pathologique de la personnalité. Là, dans le livre, je parle essentiellement des traits normaux, bien sûr, de la personnalité. Quand je dis normaux, ça veut dire que tout le monde possède à 99%, bien sûr. Donc le névrosisme, ça sera une tendance qui associe des nuances d'anxiété, de timidité, de vulnérabilité et d'hostilité. C'est-à-dire que chez les personnes névrotiques, en quelque sorte, eh bien, on a cette habitude d'être beaucoup plus sensible aux émotions négatives, ce qui va évidemment nourrir l'anxiété. Alors, dans le névrosisme, évidemment, il y en a qui en vivent très très bien, hein, ça n'entraîne pas forcément une anxiété pathologique. Ils ont une réactivité émotionnelle qui est assez forte au niveau de l'intensité, c'est-à-dire un petit rien va les énerver, va les mettre en colère. Ils sont très critiques envers eux-mêmes, ils sont souvent inquiets, pas forcément de façon chronique, mais ils sont souvent inquiets et souvent contrariés. Et on note deux composantes intéressantes dans le névrosisme. Il y a le refoulement, c'est-à-dire le fait d'avoir une peur du danger qui est inscrite en eux-mêmes, donc ils sont facilement inhibés face à une difficulté, etc. Et une autre caractéristique qu'on repère assez vite chez les névrotiques, c'est l'instabilité. Ils peuvent effectivement se mettre facilement en colère, ou au contraire avoir, ça leur arrive bien sûr parfois, avoir une émotion positive un peu démesurée. Donc une volatilité émotionnelle, et ils s'énervent parfois assez facilement, ce qu'on peut trouver, on peut observer facilement chez des personnes qu'on connaît. Voilà.
Mmh. Alors, le côté conscient, comment vous dites-vous conscience Consciencieusité.
Consciencieusité.
Voilà.
C'est pas le fait, oui, c'est le fait d'être consciencieux, voilà, c'est la consciencieusité.
Voilà, tout donc consciencieux. Alors, par exemple, vous, pour ce caractère, vous citez comme exemple Gustave Eiffel.
Oui, alors justement, en voyant la biographie de Gustave Eiffel, on s'aperçoit qu'il était extrêmement discipliné, surtout minutieux. C'est-à-dire qu'en fait, il a un petit peu de trait d'ouverture, la créativité dans son domaine à manipuler les aciers, les créateurs, comme on le sait. Mm-hmm. Mais en même temps, il était extrêmement persévérant, perfectionniste, il aimait tout planifier, mais consciencieux. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ne procrastinent jamais, qui donnent la priorité à l'objectif dans leur travail. Et comme je l'explique dans le livre, puisque je fais bien sûr une corrélation avec les observations de ce que les spécialistes de l'imagerie voient dans le cerveau, mm-hmm. ils décrivent ça en disant que finalement leur cerveau a un mécanisme très fort dans le domaine top-down. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le lobe préfrontal, qui décide tout ce qu'on doit faire, eh bien, chez eux, cette partie du lobe préfrontal est très dominante. Ils ne se laissent pas distraire par des émotions qui arrivent ou des distractions amusantes qui pourraient les gêner dans leur travail. Mmh. Donc, une fois qu'ils ont démarré quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et donc, ils se laissent peu distraire. On a une idée des réseaux de connexion qui sont impliqués dans ce domaine. C'est ça qui est intéressant.
Mmh. Alors, nous parlerons tout à l'heure, enfin, bientôt, des neurones, des connexions. Mais oui. Je continue avec vous, s'il vous plaît, professeur Bernard Sablonnière, à explorer ce terme, cette acronyme de océan. Alors, nous sommes arrivés au E, l'extraversion. Oui. Alors, Qu'est-ce que recouvre ce domaine d'être extraverti?
Bien, ce sont les nuances que j'explique, bien sûr. Mm-hmm. C'est des gens qui sont sûrs d'eux, qui sont enthousiastes, qui sont facilement enjoués, gais, qui éprouvent beaucoup de chaleur humaine, qui expriment beaucoup de chaleur humaine, qui sont parfois un petit peu excités quand ils sont en réunion ou avec les autres. Ils adorent échanger avec les autres. Et les neurobiologistes pensent que ça correspond à ce circuit un peu désir-récompense qui est fortement activé chez eux. Et c'est pour ça qu'ils sont très très motivés, mais aussi ils aiment les compliments. Ils aiment bien que les autres leur fassent des compliments et ainsi, de cette façon, leur circuit de la récompense se trouve un petit peu activé et ça leur procure beaucoup de plaisir.
Et le A pour
alors,
agréable
disons, Oui. Alors, donc, ils ont une sensibilité émotionnelle accrue. Alors, ça peut partager en partie des traits de l'agréabilité, mm-hmm. mais la différence entre l'extraversion et l'agréabilité, c'est que dans l'agréabilité, on a la nuance empathique qui est vraiment dominante. Ah. Alors que les extravertis sont pas forcément empathiques. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup s'intéresser aux autres en voyant ce que les autres vont renvoyer de l'image d'eux-mêmes. Finalement, hein. Donc ils vont être intéressés par les autres qui vont leur dire vous avez des qualités, etc., etc. Tandis que les individus agréables sont des vrais altruistes, des personnes véritablement sociables, coopérantes. Et il y a cette notion aussi d'être capable de ressentir et de comprendre les émotions des autres. C'est ce qu'on appelle la mentalisation en psychologie. Donc là, les gens agréables ont cette capacité tout à fait étonnante de très bien comprendre l'état mental des autres et de se mettre à la place des autres.
Alors dans la dimension agréable, il y a une dimension éthique. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chez eux, l'autre a vraiment une importance vraiment forte. Et un certain nombre de chercheurs pensent que cette notion d'agréabilité qui met en jeu une petite région du cerveau qui est proche de l'aire du langage correspond à une forme de perception émotionnelle des autres sans utiliser les mots, donc une forme d'expression d'un langage non-verbal. Mmh. Et les chercheurs vont jusqu'à proposer, même si c'est un peu hypothétique pour le moment, le fonctionnement d'un véritable réseau de l'empathie met en œuvre une partie du lobe du cerveau de l'émotion, ce qu'on appelle l'insula, et qui leur permet d'avoir cette nuance de compassion. c'est-à-dire vraiment de comprendre et de partager les émotions des autres.
Alors, professeur Bernard Sablonnière, vous êtes chercheur à l'INSERM. Qu'est-ce que c'est exactement que cette institution ?
Alors, l'INSERM, c'est l'Institut national de la recherche médicale. Si on compare au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, l'INSERM est également un organisme national qui permet de structurer un très grand nombre d'équipes de recherche. Il y en a plus de 250 en France, dans le domaine médical, quelles que soient les spécialités. Et moi, je suis retraité, mais mon domaine, c'était les neurosciences, où je travaillais notamment sur des pathologies du cerveau, notamment des pathologies d'origine génétique. Mais en fait, le fait d'écrire ce livre, c'est pour moi un souci de curiosité et de rendre accessible, en essayant de le rendre bien sûr accessible au grand public, des découvertes qui sont absolument passionnantes et qui progressent sur le fonctionnement du cerveau.
Alors, quelles sont ces découvertes qui progressent au niveau du fonctionnement du cerveau ? Ça, c'est passionnant. Vous avez parlé de neurones, de connexions, d'IRM, d'imagerie. Alors, parlez-nous de ce domaine, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Alors, l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, les gens connaissent ça parce que souvent, dans le cadre de diagnostic d'une pathologie, ils savent qu'ils auront un examen d'imagerie où on est dans un espèce de tunnel et ça fait beaucoup de bruit puisqu'il y a un aimant qui fonctionne et qui doit émettre un champ magnétique extrêmement puissant. Et en fait, ça permet, dans le fonctionnement le plus courant, de voir que dans certaines régions du cerveau, lorsque les neurones vont s'activer, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à communiquer entre eux selon un chemin bien précis, eh bien, à ce niveau-là, les vaisseaux sanguins vont se dilater un petit peu. Et l'IRM arrive à voir, grâce aux propriétés magnétiques du fer contenu dans les globules rouges, arrive à voir cette dilatation des petits vaisseaux sanguins, même sur des volumes extrêmement petits, de l'ordre de quelques millimètres cubes. Donc on arrive comme ça à restituer des images, alors bien sûr ce ne sont que des images, qui correspondent à des régions du cerveau qui s'allument, qui s'activent plus que d'autres, et on en déduit que ces régions du cerveau qui s'allument correspondent à l'activation de connexions sous-jacentes.
Alors il y a les neurones et puis les connexions. Les connexions, c'est l'addition de tous les neurones, c'est une chaîne. On ne peut pas faire comme en mathématiques la commutativité, là il y a l'associativité. Est-ce qu'on peut imaginer dans un travail sur le cerveau utiliser cette compétence mathématique de la commutativité pour les neurones ?
Alors, il y a des modèles mathématiques qui utilisent cela pour essayer de comprendre le fonctionnement des neurones. Alors, il y a un projet international qui s'appelle le projet Connectome, qui, depuis déjà plusieurs années, analyse des milliers et des milliers d'images d'IRM pour essayer de comprendre le fonctionnement des connexions. Et puis, il y a une autre technique d'IRM qu'on appelle la tractographie, qui permet de visualiser vraiment ces fils qui relient les neurones, qu'on appelle des axones. Et on en a 100 000 km dans la tête, donc c'est absolument un travail considérable. Et le coordonnateur de ce projet mondial, qui s'appelle le projet Connectome, dit qu'ils arrivent à voir tout. Le problème, c'est l'énormité de ce tout. Donc évidemment, comme vous dites, pour reconstituer des modèles, pour voir comment les neurones se parlent, actuellement il y a des recherches en cours, mais on en est à regarder ce qui se passe dans quelques millimètres cubes de substance grise, alors que le cerveau fait environ 1300 cm3, donc on en est loin.
Alors, qu'est-ce qui fait notre identité ? Sommes-nous un produit ? Et ça, c'est vertigineux et c'est très angoissant. Est-ce que nous sommes simplement une somme ? Nous croyons être l'auteur de nos émotions, les auteurs de notre vie, quelque chose qui échappe au déterminisme d'une résultante, d'un produit. Mais sommes-nous en fait un produit ?
Alors, ceux qui envisagent que la création est un phénomène remarquable et qui existe, vous diraient que oui. Après, il y a tout à fait encore, et pour beaucoup de chercheurs, un mystère dans le fonctionnement de ce cerveau, à savoir que Et bien sûr, dans ce livre, j'explique que dans la partie correspondant au tempérament, il y a des façons dont les connexions vont se construire au fur et à mesure de la grossesse, mais le mystère reste là, parce que figurez-vous qu'on a à peu près 20 000 gènes dans notre patrimoine, et ce patrimoine ne peut pas tout déterminer, puisqu'il y a 30 000 milliards de connexions. Donc, bien sûr, le cerveau n'est pas complètement construit à la naissance, et c'est ça un peu ce miracle de la création biologique de l'homme, c'est que après la naissance, il va être largement modulé dans son fonctionnement. On dit qu'il est plastique et il va être influencé par l'éducation, par le vécu de nos émotions, etc. Et c'est ça qui va moduler, qui va déterminer nos façons de réagir, c'est-à-dire nos nuances de caractère. Donc effectivement, il reste encore une grande part de mystère, et on en est actuellement, grâce quand même au progrès de l'imagerie, à essayer de voir qu'une pensée peut quand même s'inscrire, ou une façon de réagir peut quand même s'inscrire dans des chemins de connexion que les chercheurs commencent à identifier. Mais on est loin, bien sûr, d'avoir tout identifié.
Est-ce qu'il est raisonnable de penser que notre émotion, notre ressenti interne et intime puisse être visible et détectable à l'imagerie ?
Alors actuellement non, bien sûr, et ça je le dis aussi, notamment dans les recherches qui ont été faites sur la capacité de ces clés chimiques du cerveau qu'on appelle les neurotransmetteurs, à être responsable d'un certain nombre de nos réactions. On sait bien que la noradrénaline qui est libérée lors du stress va entraîner une hypersudation. On sait que dans les années 60 aux États-Unis, on utilisait cela pour faire ce qu'on appelle des détecteurs de mensonges. Mais en réalité, la corrélation n'est pas parfaite. Et on sait que notamment chez les personnes un petit peu narcissiques, eh bien, même lorsqu'ils le stressent énormément, ils n'ont pas d'hypersudation, alors que d'autres auront une sécrétion de sueur importante. Donc la réactivité au stress, la réponse aux émotions, la réponse à l'envie de démarrer une action, cette façon d'être impulsif, tout cela est réglé par des clés chimiques du cerveau, par des neurotransmetteurs, mais leur fonctionnement reste encore extrêmement complexe. Et donc il reste encore une part de mystères, de choses qu'on n'explique pas et que peut-être on est encore loin d'expliquer complètement.
Est-ce qu'il est raisonnable de pouvoir imaginer un chemin de conscience d'un cerveau à l'autre ?
Alors, il y a des données sur ce qu'on appelle la transmission émotionnelle. Alors, un certain nombre de recherches sont intéressantes là-dessus en montrant que le cerveau humain a cette capacité de détecter, de lire les émotions dans le visage d'autrui. Et cette capacité est extrêmement développée chez l'humain, et d'après les chercheurs, elle serait issue de l'évolution d'un certain nombre de gènes dans le cerveau. Au fur et à mesure que Sapiens a augmenté en volume de population, les hominidés se sont rencontrés davantage, et ça a permis de développer ce sens remarquable de sociabilité. Et cette sociabilité a été développée grâce à la reconnaissance qu'on peut lire dans le visage d'autrui. Donc, effectivement, ça peut permettre d'expliquer une certaine forme de transmission inconsciente de l'état émotionnel des autres, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, en disant que finalement les personnes qui ont ce caractère agréable ont une propension supérieure aux autres à détecter, à comprendre l'état émotionnel des autres.
Et est-ce que on
donc
peut...
c'est en partie vrai.
Mm-hmm. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que quelqu'un de spécial puisse être capable de concevoir ce qui va se passer, donc l'avenir, ce qui est ambiant, non encore acté dans la réalité, mais qui est susceptible de survenir?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle, oui, la capacité d'imagination. Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est que les gens ouverts sont plus imaginatifs que d'autres. Et les chercheurs montrent que dans ce cas-là, on a peut-être, c'est une hypothèse, une hyperconnexion dans certains réseaux de connexion du cerveau, notamment ce qu'on appelle le réseau par défaut, et ce qui va expliquer ce qu'on appelle la pensée divergente des gens très créatifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de finalement, en une pensée de quelques minutes, d'absorber soit beaucoup d'idées, soit beaucoup d'informations sensorielles en même temps, en tout cas davantage que les autres. Alors peut-être que les recherches dans ce domaine permettront d'aboutir au fait qu'ils pourraient être capables d'imaginer un futur qui n'est jamais arrivé. Enfin là, on arrive vraiment dans des nuances qui sont encore très très mal connues.
Alors, juste avant de terminer, parler du rôle que joue le microbiote sur notre personnalité. Est-ce que ce dont notre maman se nourrit pendant que nous sommes dans son sein influe sur nous? Donc, le rôle du microbiote sur la personnalité humaine.
Oui, j'en parle effectivement un petit peu à la fin du livre, parce qu'il commence à apparaître dans la littérature scientifique des observations intéressantes, montrant que certains traits du tempérament, puisque chez un bébé il n'y a pas encore de caractère défini, des traits du tempérament comme l'agitation, la nervosité, ou bien une réponse émotionnelle un petit peu plus forte du bébé face à son environnement, avec une activation de l'axe du stress un peu plus élevée, pouvait être corrélée à la diversité de son microbiote. Et cette diversité de son microbiote pourrait être influencée par, effectivement, le comportement maternel, ce que la mère, évidemment, consommait, notamment dans le dernier trimestre de la grossesse, puisqu'on sait que le microbiote maternel va être transmis en grande partie au bébé lors de la naissance.
Il y a aussi des notions comme les hormones du cerveau, neurotransmetteurs, des notions comme dopamine, sérotonine. Est-ce que vous pourriez apporter vos clartés sur ces domaines, s'il vous plaît?
Oui, alors les neurotransmetteurs, on les connaît bien. Comprendre leur fonctionnement dans le cerveau humain, c'est plus difficile parce que les outils sont plus délicats et plus difficiles à envisager de façon objective, mais on a quand même quelques pistes intéressantes. C'est par exemple l'impulsivité. On fait maintenant, grâce à des techniques de scanners particuliers, je ne vais pas entrer dans le détail, que certains individus impulsifs qui prennent des décisions trop rapides, eh bien cette impulsivité est liée à une variation brusque de la libération de dopamine dans certaines régions de leur cerveau. Donc finalement, normalement, quand on décide quelque chose, quand on décide une action, le lobe préfrontal qui va organiser l'action pose une question, envoie un message à l'amygdale, c'est l'amygdale du cerveau, c'est un centre d'alerte, en demandant à l'amygdale, est-ce que ça risque d'être dangereux ou pas? Est-ce que finalement ce sera la bonne décision? Et chez des gens impulsifs, eh bien la libération de dopamine est tellement forte que l'amygdale n'a pas le temps d'envoyer ses signaux et on a une forme d'explication de l'impulsivité. Alors, deuxième exemple de la dopamine, c'est chez les gens extravertis, très hyperactifs, très extravagants, où là, c'est dans le circuit de la récompense, où il y a une libération très très forte de la dopamine. Donc, ils sont très motivés à démarrer des nouvelles actions, à entrer en relation avec d'autres, etc. Un comportement très exploratoire. Et puis, la sérotonine, c'est plus compliqué, parce que c'est une clé chimique qui agit sur plein de fonction biologique, elle agit sur l'humeur, elle agit sur la réponse émotionnelle, elle agit sur l'appétit, elle agit sur le sommeil, etc. Bref, pour revenir un peu au niveau de ce qui nous intéresse, les nuances du caractère, la sérotonine joue un rôle clé dans la réponse émotionnelle. Et finalement, selon qu'elle est transportée plus ou moins efficacement dans le cerveau, ou selon que les récepteurs de la sérotonine, ces espèces de serrures qui sont activées par la clé sérotonine, fonctionnent plus ou moins bien, eh bien, on pourra comparer les nuances d'une personne extravertie par rapport à une personne introvertie, où là, la sérotonine agit de façon très forte dans certaines parties du cerveau, alors que chez l'extraverti, c'est la dopamine qui domine, et à ce moment-là, la sérotonine ne peut pas exercer un peu son rôle de freinateur. Donc, on a quand même un certain nombre de points d'observation sur le rôle de ces neurotransmetteurs, mais c'est pour l'instant quand même assez limité, parce qu'en fonction du type de récepteur, eh bien, les réponses qu'on observe au niveau des neurones et des circuits impliqués sont différents et sont très variés.
Professeur Bernard Sablonnière, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté ce livre passionnant qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob, dont le titre est « Biologie de la personnalité, la construction du soi ». Je rappelle que vous êtes médecin biologiste, professeur émérite de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'Université de Lille, chercheur à l'INSERM, et que vous avez écrit d'autres livres que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer, mais que j'ai très envie de découvrir. Par exemple, il y a La chimie des sentiments.
Oui, La chimie des sentiments, parce que effectivement, c'est un de mes livres qui marche le mieux, parce que ça touche vraiment à l'intimité de la relation humaine, et là aussi il y a eu des progrès remarquables qui ont été faits, et on arrive quand même à expliquer ou à illustrer beaucoup de choses dans le comportement amoureux grâce à cette connaissance de la chimie des neurotransmetteurs et de leur rôle dans le comportement amoureux, tout à fait.
Professeur Bernard Sablonnière, merci beaucoup. Je rappelle ce livre dont nous venons de parler, « Biologie de la personnalité, la construction du soi », et ça vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir, madame.
Au revoir. Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Solange.